Assis sur des lingots d'or et les mains pleines de sang, t'es réélu à 90%. La France en bonne hypocrite te félicite, en dépit des critiques, t'as sauvé ton titre. Ton reflet dans la classe ne pose aucun problème. T'as autant de mépris pour la masse que d'amour pour toi-même. Des liasses de billets s'entassent dans les caisses, loin des bidonvilles et des familles en détresse. Ceux qui osent te traiter de despote sont hélico, emprisonnés ou écrasés comme des cloportes. Dans l'armée t'as pas que tes potes et ça complote. Ils voudraient être à ta place et plus être à ta botte. Tu te comportes comme un colon dans ton propre pays. Sous ton costume trois pièces tu portes un treillis. T'as créé des faux journaux et des faux partis pour faire semblant de diriger une vraie démocratie. Les élections sont truquées et dans le pire des cas tu pourras toujours les annuler. Quant aux vrais opposants qui auraient pu t'inquiéter, ils sont plus là pour en parler. Assis sur des lingots d'or et les mains pleines de sang, t'es réélu à 90%. La France en bonne hypocrite te félicite, en dépit des critiques t'as sauvé ton titre. Assis sur des lingots d'or et les mains pleines de sang, t'es réélu à 90%. La France en bonne hypocrite te félicite, t'es le Don Corleone du nord de l'Afrique. Quand il faut une bonne guerre civile pour sauver ta peau, t'hésites pas à faire couler du sang sur le drapeau. Tu te fous que l'on t'aime, il faut qu'on te craigne. T'es prêt à tout pour prolonger ton règne. Que le peuple baigne dans l'ignorance et la pauvreté. Que tu puisses manigancer dans l'obscurité, l'insécurité, décourager les touristes. Si t'avais que c'est toi le plus grand des terroristes. T'as créé de toutes pièces des groupuscules, des abrutis qui ne savent même pas que tu les manipules. Avec des services secrets meilleurs que 007 et qui fait passer le chef du KGB pour l'inspecteur Gadget. Et en cas d'incident, tu peux toujours compter sur l'appui de l'Occident. Ces crétins ont tellement peur des barbus qu'ils préféreront toujours un moustachu corrompu. Assis sur des lingots d'or et les mains pleines de sang, t'es réélu à 90%. La France en bonne hypocrite te félicite, en dépit des critiques t'as sauvé ton titre. Assis sur des lingots d'or et les mains pleines de sang, t'es réélu à 90%. La France en bonne hypocrite te félicite, t'es le Don Corleone du nord de l'Afrique. Des milliards de dollars pour des hydrocarbures, tous les contrats les plus juteux portent ta signature. Les trois quarts de la jeunesse sont au chômage, toi c'est tout pour ton clan, tout pour ton village. Assis sur des lingots d'or et les mains pleines de sang, t'es réélu à 90%. La France en bonne hypocrite te félicite, en dépit des critiques t'as sauvé ton titre. Assis sur des lingots d'or et les mains pleines de sang, t'es réélu à 90%. La France en bonne hypocrite te félicite, t'es le Don Corleone du nord de l'Afrique.
La seule incertitude en fait, c'est ce qui va être élu à 90, 95, 98% des voix.
Selon le ministère de l'Intérieur, le président sortant a recueilli plus de 90% des voix.
Ce pouvoir opaque est fait de clans, de liens d'amitié, de solidarité régionale. Mais l'armée est la colonne vertébrale du régime.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni qui que ce soit. Et c'est jeudi noir ce soir, avec aujourd'hui un invité, Yalan Messili, moi-même Jean-Mathias, et en studio on a José et Petra qui l'assistent. Alors, je présente l'émission de ce soir sur un format un petit peu différent de celle qu'on a, c'est celui qu'on a l'habitude de pratiquer habituellement. C'est une émission avec un invité, Yalan, dont vous venez d'entendre un titre qui s'appelle 90%. Voilà, donc il est l'auteur de ce titre-là. Et Yalan est aussi le fils d'Ali Messili, assassiné en plein Paris en 1987. Donc ça peut faire ancien pour les plus jeunes auditeurs, mais c'est une histoire qui est encore très très vive, notamment pour Yalane qu'on reçoit ce soir. Donc on va essayer de voir avec lui, au fond, ce qui s'est joué autour de cet assassinat d'Ali Messili le 7 avril 1987 à Paris. On va évidemment lui laisser la parole le plus possible. Je signale que, au fond, l'émission l'a aussi construite avec lui autour d'un livre que je vous recommande, qui s'appelle L'affaire Messili, un livre de Hossein Haït Ahmed, qui est paru en 89, donc c'est pas un livre très très récent, mais dans la mesure où il explique dans quelle mesure l'assassinat de Messili et en fait l'absence de suites qui ont été données à cet assassinat est liée aux relations très particulières que l'État français et l'État algérien entretiennent depuis très longtemps. On a pensé que pour ce jour de fête nationale, c'était peut-être une actualité qui justifiait cette mise en perspective des pratiques diplomatiques de l'État français, notamment dans le cadre de ses relations avec l'Algérie. Alors, je passe tout de suite la parole à Yalane, si tu veux te présenter
en
quelques mots.
Bonsoir Mathias, merci de m'inviter. Donc je suis Yalane Messili, fils d'Ali Messili, donc opposant algérien assassiné en France par les services secrets algériens en avril 87. Et à côté de ça, je fais aussi de la musique depuis une vingtaine d'années à peu près. Et à côté de ça, je suis aussi enseignant. Voilà.
Bon, alors peut-être pour qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé lors de cet assassinat, on s'est dit que le mieux c'était peut-être de rappeler un petit peu dans l'ordre quelle avait été finalement l'histoire, alors évidemment pas l'histoire uniquement personnelle de ton père, mais finalement quelle avait été sa trajectoire politique, son histoire politique, dans son rôle au moment de la guerre d'indépendance algérienne, et puis comment finalement cette trajectoire nous apprenait aussi beaucoup de choses sur ce qu'avait été effectivement cette lutte d'indépendance de l'Algérie, sur ce qu'elle était et surtout ce qu'elle était devenue. Hein, c'est effectivement l'intérêt de ça. Alors peut-être que tu peux nous redire.
On peut commencer directement par le commencement. Donc mon père Ali Messili est né en 1940 à Coléa, donc c'est à 30 bornes à peu près d'Alger. Mais ses parents sont originaires de Grande Kabylie, son père de Djemaa Sarij et sa mère d'Azazga. Je dis ça pour les quelques Kabyles libertaires qui nous écoutent et que ça intéresse.
Qu'on salue.
Comme beaucoup de Kabyles, ils ont dû quitter la pauvreté de leur montagne pour chercher du travail plus proche des villes. C'est pour ça qu'il y avait une grande immigration interne à l'Algérie, ou sinon directement vers la France. Donc ils se sont rapprochés d'Alger. Le père de Messili était garde champêtre, sa mère était postière, ce qui leur a permis assez vite de faire l'acquisition d'une petite ferme qu'ils ont achetée à des colons. Et je dis ça parce que cette ferme aura une grande importance dans la vie de mon père, puisqu'elle va devenir pendant la guerre de libération nationale un refuge pour les maquisards du FLN que mon père va très vite rencontrer, qu'il accompagnera parfois au maquis et auprès desquels il va apprendre beaucoup. Au moment de la guerre d'indépendance, il prend la décision de s'engager. Il est encore lycéen en fait, et il décide de rejoindre très vite la cellule du FLN du lycée de Ben Aknoun à Alger. Il s'occupe essentiellement des relations avec la presse française, du service d'ordre.
Donc là on est en 54-55 ou tout début, là,
un peu plus 56-57 à peu près. Mm-hmm. Donc là il a 16-17 ans. Mm-hmm. Et ce qui va se passer, c'est que en 1960, lorsqu'il a alors 20 ans, il va être en fait appelé sous les drapeaux français parce que lui a la nationalité française qu'il a acquise par filiation, parce que ses parents avaient fait le choix d'une naturalisation, ce qui était une procédure extrêmement compliquée, extrêmement laborieuse que pouvaient faire certains, enfin que pouvaient faire les entre guillemets musulmans d'Algérie. Et donc vu qu'il a la nationalité française, il est censé rejoindre l'armée française. Donc là évidemment, il déserte.
Il déserte.
Oui. Il déserte et il rejoint les troupes algériennes à l'extérieur, basées à Tunis. À Tunis, c'est le MALG qui était le ministère de l'armement et des liaisons générales, ouais. Qui s'occupe du
les services de renseignement.
C'est le service de renseignement, ouais. Aussi, il s'occupe des nouvelles recrues, d'orienter les nouvelles recrues. Donc on lui fait passer un test et on décide de l'incorporer au MALG, donc au service de renseignement, et on l'envoie en Libye, à Tripoli, dans une base du MALG qui s'appelait la base d'Idouche Mourad, du nom d'un des fondateurs du FLN tombé au champ d'honneur. Donc il est incorporé au MALG et il va très vite avoir une grande importance au sein de ses services de renseignement puisqu'il va devenir lieutenant et diriger une section qui s'appelait la section renseignement, documentation, exploitation, qui était chargée de collecter les informations.
Collecter et de synthétiser, c'est ça.
Synthétiser les informations,
voilà. Ouais.
Voilà. Qui étaient envoyées par les différents agents du MALG basés à l'étranger. Donc il est à la tête quoi, d'un des services de renseignement du FLN au moment de la guerre d'Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, il va assister à la dérive en fait, de ce service de renseignement. Il dira par la suite que c'était un monstre qui allait dévorer l'Algérie. Et il va comprendre. Il va assister à la dérive grandissante en fait, de ce système en tant que police politique qui va s'employer très vite, non pas seulement... à surveiller l'ennemi français, ce qui est normal en temps de guerre, mais très vite à ficher, à fliquer les différentes personnalités du mouvement national algérien.
Et donc là, à ce moment-là, il a 20 ans à peu près,
ouais.
Donc il se retrouve officier d'un service de renseignement dans le cadre de lutte d'émancipation nationale, de libération nationale, une guerre quasi-révolutionnaire. Ça le met en situation effectivement de construire des réseaux internationaux, de voir de l'intérieur comment se structure l'ensemble de l'appareil militaire et politique du FLN et des différents maquis sur le territoire algérien et aussi à l'extérieur. Hein. Faut pas oublier qu'effectivement le gouvernement provisoire est à l'étranger. Il y a une armée des frontières aussi qui est pas sur le territoire proprement algérien. Et donc à 20 ans, effectivement, il est en situation, il est complètement dans le bain déjà. Quoi. Alors que,
oui,
a priori, rien ne l'y prédestine personnellement. Enfin bon, effectivement, il refuse d'intégrer l'armée française, il déserte, il se retrouve voilà, vraiment au cœur du cyclone, on pourrait dire d'une certaine manière, parce que le service de renseignement est un service qui est très important.
Et qui est très important, et surtout qui va prendre une très très grande importance
de plus en plus.
Par la suite, lorsque le MALG se transformera en sécurité militaire algérienne. Donc il va assister à cette dérive, il va être au cœur en fait, il va être à la genèse quoi, de cette dérive. Ensuite, donc quelques jours avant l'indépendance, donc le 2 juillet 62, le MALG déménage sa base vers Alger, en fait, pour soutenir le coup d'État qui est en préparation. Le MALG allié à l'armée des frontières et à Ben Bella, qui vont s'opposer au gouvernement,
GPRA.
Au GPRA, oui, donc au pouvoir civil. Donc là, c'est ce qui fonde l'indépendance de l'Algérie, un coup d'État militaire. Ou en tout cas, si on ne veut pas employer le terme de coup d'État, la prise de pouvoir des militaires alliés à Ben Bella contre le GPRA.
Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler pour les éditeurs, moi, je vais le rappeler parce que pour une bonne part, je le découvre. Enfin, cette révolution algérienne, elle est assez fascinante dans son histoire, de par sa complexité et de par aussi l'intensité du coup des rivalités internes qui s'y jouent, quoi. Donc, peut-être pour rappeler un peu la situation dans laquelle on est juste avant les accords d'Évian, juste avant l'indépendance officielle, on a donc sur le territoire algérien un certain nombre de maquis organisés de manière militaire, donc déjà depuis plusieurs années. Hein, les Wilaya, donc les différentes régions effectivement d'Algérie, avec des chefs militaires, avec des organisations, une organisation militaire très, très stricte. On a un gouvernement, un pilotage politique, donc le gouvernement provisoire algérien qui est donc à l'étranger, en Tunisie, c'est ça, je ne me trompe pas. une armée des frontières.
Alors l'armée des frontières, oui.
Sous le commandement de Boumédienne.
Qui n'a pas participé directement
aux affrontements avec les Français.
Qui a passé toute la durée de la guerre derrière la ligne Maurice, mm-hmm. qu'on appelait, qui est la frontière tuniso-algérienne. Ouais. Et qui n'a pas participé au combat. Les combats ont été menés essentiellement par les maquis de l'intérieur, qui ont été décimés, quoi, avec la violence que l'on sait par l'armée française, à partir du plan Châle, de la bataille d'Alger, etc.
Et ce qui se passe donc effectivement, à partir du moment où la France est vaincue, et où en gros décide de retirer ses billes, c'est que ce qui va se déclencher, donc c'est une lutte sans merci, entre le gouvernement provisoire algérien, qui regroupe finalement la plupart des fondateurs, des dirigeants politiques, on va dire, du FLN, donc qui sont déjà sur ce projet d'indépendance depuis parfois 10, 15, 20 ans, voire plus. Et donc, conflit entre ce gouvernement provisoire
et l'armée des frontières,
alliés, et son état-major.
Alliés au Malg, là, dont on parlait, et puisqu'ils ont besoin quand même d'un apparavant civil et historique, Ben Bella va jouer ce rôle.
Qui était un des dirigeants politiques et qui va effectivement servir de caution politique.
De paravent, quoi. Voilà. Politique à l'armée. Ouais.
Donc cette espèce de rivalité entre, en gros, politique et militaire. Ouais. Si je schématise. Et effectivement, ton père se retrouve embarqué dans cette opposition-là, en tant que membre des services de renseignement de l'armée, donc allié effectivement à l'armée des frontières, et il refuse de rentrer.
Et donc là, alors que les convois de camions. Le transporte vers Alger, lui qui était à Tripoli au sein du Mal, il décide de s'enfuir, il saute du camion et il rejoint les officiers de sa région et commence à les avertir de ce qui se trame, quoi, et des dangers qu'il a pressentis au sein du Mal, qui risquent de devenir une police politique qui va dévorer le pays, quoi.
Donc à partir de ce moment-là, on est en 62, oui, juste avant évidemment. Donc là il a 22 ans, donc il a déjà cette expérience effectivement des renseignements longues, riches et plutôt intenses, et il se retrouve déserteur pour la deuxième fois, donc cette fois-ci de l'armée algérienne, parce qu'il refuse effectivement de participer à ce coup d'État mis en place par les militaires pour évacuer les dirigeants politiques historiques du FLN, et sachant que ce coup d'État va réussir.
Oui.
Bon. À partir de ce moment-là, donc, qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe, c'est que quelques temps plus tard, en 63, il y a Aït Ahmed, donc il y a un des 9 chefs historiques fondateurs du FLN.
C'est l'auteur du livre que j'évoquais tout à l'heure, là, sur l'affaire Messili, et qui est aussi évidemment devenu un ami très proche.
Le meilleur ami de mon père. Donc quand Aït Ahmed va lancer un appel en 63 à tous les Algériens patriotes de le rejoindre pour faire barrage à ce qui est en train de se préparer, à la prise du pouvoir de l'armée de l'extérieur et à ce coup d'État. Lui, Aït Ahmed, il a essayé pendant un moment d'exploiter l'espace public au sein de l'Assemblée nationale constituante. Il a essayé d'apporter ses idées, il s'est distingué, mais il voit que finalement ça n'aboutit pas. Donc il décide de reprendre le maquis, tout simplement en 63, et il lance un appel. Et mon père fera partie des premiers à le rejoindre dans le maquis en 63. Et ensemble, avec d'autres, ils vont lancer un des plus anciens, des plus vieux partis d'opposition algérien qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Front des Forces Socialistes, donc le FFS, qui sera fondé le 29 septembre 63.
Alors là, l'idée, c'est que tu parles d'Aït Ahmed, c'est que ce qu'il constate au bout effectivement d'un an de travail entravé de la constituante algérienne, c'est que ce qui se met en place, c'est une espèce de rouleau compresseur pour mettre en place une dictature militaire, avec un parti unique, avec effectivement des partis d'opposition qui vont être interdits, tout simplement, une presse muselée, et surtout un contrôle policier de plus en plus étroit des opposants, des différents cadres politiques. Effectivement, c'est ce que crée effectivement la dérive que craignait ton père lorsqu'il était encore lui tout jeune officier du MAG, qui se réalise tout simplement avec au passage des méthodes. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre là d'Aït Ahmed, c'est la manière dont, enfin les similitudes que tu perçois dans la mise en place de cet état policier avec tout ce que j'ai pu lire ou tout ce qu'on peut connaître par ailleurs de ce qui s'est passé dans les ex-pays de l'Est, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de machine policière
les membres du MAG qu'on appelait les malgaches, ont été formés évidemment au KGB. Hein, on appelait ça la promotion tapis rouge. Voilà.
Et donc, et on a vraiment ça qui se met en place avec cette espèce de machine assez effrayante à déshumaniser, effectivement, y compris ses membres. Hein. Et c'est aussi un des trucs que j'ai trouvé fascinant, mais on va venir à la suite, dans la manière dont, effectivement, Aït Ahmed raconte l'histoire de ton père, c'est la manière dont il semble lui avoir, comment dire, survécu à ce broyage-là, quoi, jusqu'à ne pas hésiter à y retourner en tant qu'agent double, en fait, voilà. Après ouais, qu'il se soit engagé au sein du FFS.
Donc là, c'est à cette période, ouais, ouais. Du FFS, il estime... En discutant avec Aït Ahmed, il estime très vite qu'il sera plus utile s'il reprend du service au sein des services, justement. Donc il réintègre le MALG a changé d'acronyme, maintenant s'appelle l'ASM, la fameuse sécurité militaire, qui fera tant de mal à l'Algérie, qui fera tant peur aux Algériens, à tel point qu'ils l'appelleront sport et musique, pour parler de manière codée. Et donc il pense qu'il sera plus utile, effectivement, s'il reprend du service au sein de la sécurité militaire. Donc il pourra ainsi être au courant de ce que manigance le pouvoir, de ce qui se trame au sein du pouvoir, et en informer le FFS à l'extérieur. Et il pourra aussi également intoxiquer ce même pouvoir.
C'est un travail d'agent double.
Ah, un travail d'agent double.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que faut pas que les auditeurs s'imaginent que ton père est une espèce de, ou a été une espèce de machine de guerre machiavélique ou machiavélienne humainement. Voilà, c'est pas un profil de guerrier, quoi.
Ah non.
C'est pas un profil de guerrier. C'est quelqu'un. Enfin, moi, j'étais assez. Je lui dis, voilà, on est entre nous, mais c'est pas pour mettre. Mais j'ai été assez bouleversé, moi, par le portrait hein, qui ressort du livre d'Aït Ahmed. Et c'est quelqu'un qui est effectivement d'un courage, mais bluffant. Et en même temps, c'est pas un calculateur, c'est pas un politicard, c'est pas un intrigant, c'est pas non plus un baroudeur. C'est pas du tout ce profil-là. Ah
non, c'est un grand humaniste, idéaliste. Ouais. Il aimait beaucoup le cinéma, la philosophie, la poésie. Enfin,
ouais. Plutôt rêveur
plutôt
et pacifique.
Rêveur, ouais, exactement.
Hein, ouais. Si effectivement. Ouais. Et on a
il
donc
a été embarqué quoi dans quelque chose.
Ouais, il est embarqué dans un truc et il se retrouve donc à 23 ans. Après un passé dans les services secrets algériens, à prendre la décision d'infiltrer un des appareils policiers qui va s'avérer être un des plus terrifiants de la deuxième moitié du XXe siècle, l'infiltrer comme agent double, quoi.
Voilà.
Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez bluffant, quoi, dans la démarche et puis dans ce que ça va donner, quoi, derrière. Il y a pas beaucoup de cas, enfin, à ma connaissance, si tu veux, de décisions de ce type-là. Déjà, le fait, si tu prends une barbouze standard, ou si tu prends effectivement une tête boulée ou un aventurier, tu vois, militaro quelconque, il y a pas beaucoup de cas, enfin, je veux dire, de d'agents doubles comme ça ayant réussi dans les services formés par le KGB, hein. C'est quand même un cas relativement rare. Et de fait, ce travail d'intox et puis d'agent double, bah, il va le mener pendant presque 2 ans, si je me trompe pas.
Oui, un an et demi. Ouais.
Avant d'être arrêté.
Oui.
Avant
d'être arrêté en octobre 64 à Eid Zellal. Donc comme il passait ses journées parfois. À la sécurité militaire, et le soir il rejoignait Aït Ahmed
au maquis.
C'est lors d'une de ces réunions qu'ils sont arrêtés tous les deux.
Mais un peu par hasard, hein.
Ouais,
par hasard. Ce que raconte Aït Ahmed, c'est qu'en fait, il est pas démasqué en tant qu'agent double, c'est pas là-dessus qu'il tombe, en fait. Hein.
Ah non, pas
du tout. Et les mecs, effectivement, les militaires.
Après, quand ils l'apprennent, ils sont foudrage évidemment contre lui.
Sûr.
D'ailleurs, on peut aussi dater de cette période
le contrat qui est mis sur sa tête.
Voilà, exactement.
Donc il est arrêté. Il est emprisonné.
Il est arrêté.
Ça se passe pas bien.
Emprisonné.
Pas bien du tout.
Oui, tout de suite, lui demande à être exécuté aux côtés de son ami Aït Ahmed. Puis il décide de les séparer. Lui est transféré à la prison d'Oran. Là-bas, il commence à déprimer. Je crois qu'il fait une tentative de suicide. Ses chefs de la sécurité militaire passent le voir en prison, l'insultent, son foudrage. Mais alors, pourquoi on l'a pas exécuté? En fait, c'est parce que cette période, Ben Bella cherche à négocier, parce qu'en fait, d'une part, il a peur, parce qu'il faut dire que le FFS a pris les armes et qu'ils se sont battus. Donc Ben Bella a quand même peur que ça fasse tache d'huile, cette rébellion. Et puis aussi, il veut négocier Ben Bella parce qu'il sent que Boumediene risque de se retourner contre lui et il a pas tort. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas exécuté. Et donc, et Ben Bella est renversé quelques jours après que le FFS ait commencé à engager des tractations, à négocier. Avec Ben Bella. Il est renversé par Boumediene le 19 juin 1965.
qui va prendre le pouvoir et qui va donc lui mettre en fait très officiellement, pas officiellement, mais enfin très très effectivement, en tout cas une dictature militaire, policière militaire sur l'Algérie, qui est encore largement en place.
Il y a quelques variantes, c'est le même système qui est en place.
Et donc alors à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ton père va être
il va être libéré en novembre 65 parce que en fait il a négocié. En fait, il a menti. Encore une fois, là, on peut aussi dater de cette période la rancœur qu'ils nourriront à son égard. Il a menti en disant qu'il restait des maquis FFS dans l'immigration en France, qu'il restait des opposants là-bas et qu'il fallait qu'il s'y rende absolument pour les calmer, mais que lui, il cessait toute activité politique et qu'il fallait qu'il se rende en France pour arrêter cette agitation.
D'accord, donc il s'invente une mission de médiateur bidon.
Voilà. Et une fois arrivé sur le sol français, il envoie un message en disant que le combat continue et il commence à restructurer l'opposition en France. Évidemment, il sait qu'il ne pourra pas retourner en Algérie à partir de cette période.
Et donc là, évidemment, c'est la deuxième... on peut lui attribuer à ton père. T'as une telle densité sur ces années-là. Mais en tout cas, une deuxième grande période de sa vie qui va être sa vie en exil. Mmh. En exil sur le sol français. Voilà. Et où là, effectivement, alors il va commencer une activité professionnelle d'avocat. Et on va peut-être faire une petite pause et on verra comment effectivement il a continué effectivement sa trajectoire politique, mais sur le sol français, jusqu'à cet assassinat en 87.
Schwer, je bois une teuf sous, esmi va vailler mousse. Nek zhult ma dh gusu Mithen ghan nalla net sargu Ghsin yithran di gynwan Nek shem zi tram Kul shu al zavekhan Yit swat sara sa zath u kham Alin twal ni u ghalag dha gugam Aya gerida mokran Ini yit gan Musharam qavel ayn yidran Thura dhaya nukuni dhi gujilin Lihkum al zayir Yisu zri dhaman ويدي خدمنا ياكي ذي قرفيوان قرلين دير قازان شومن مازال اغذي قردان اسلي غي سوتك يما يغتينا سلو امين سلو اي اللي بابا توني غري غفترلي اشرا ونديني اي راوي اكا يقرا سكران وقراوي سلو امين سلو اي اللي بابا توني غري غفترلي امشرا ونصفح ما اي راوي Chfir, y bois une teuf sous. Asmi va vaillir mousse. Dis-toi, chourdiou, the kchem tuk dir. Yalioun, yahsen, dites sous mir. Misak sarachimi, urdu fir tiriris. Mermara tuk fouir targis. Aïma azizen, tachir yuren. Urzri, arbelin, saadaoun. غسكن قولي وشعل انتي مس غيغات سوغا غوزمير غامزوني شو تيلس يلاس فافا يكتف تدوز يفغا يفنو لتزاير تامينوز يموت ذاقي دير غاربا يرنا ويني ثين غان ذاق بيريا من الزايخ دا مازال اغذي قردان اسري غي صوتك يما يرينا سلو امين سلو اي اللي رفت ولي غري غفتر اللي اشرا ونديني اي راوي Kai kura sekeran ugrawi utsru ami utsru ayli rafat wni ghri ghftlli amshara wnsfah ma ayrawi kai kura sekeran ugrawi ne pleure pas mon fils ne pleure pas ma fille
ne pleure pas
aujourd'hui papa est mort pour la liberté ne pleurez pas soyez fiers votre père est mort en révolutionnaire
Jeudi Noir sur Radio Libertaire, radio sans Dieu ni maître ni publicité. On reprend notre émission sur l'affaire Messili avec notre invité Yalan Messili, fils d'Ali Messili, assassiné à Paris en 1987. On a retracé là dans ce premier temps de l'émission tout ce qui avait été l'engagement politique et militaire de ton père Yalan pendant la guerre d'indépendance algérienne. On va parler maintenant peut-être un petit peu de ce qui s'est passé une fois qu'il arrive sur le sol français, donc en exil. Je précise que le deuxième morceau qu'on vient d'entendre, c'est un morceau de toi, encore. Tu peux nous...
Qui s'appelle Fagalan Graouliou, donc c'est un morceau en langue kabyle, ça veut dire la fin d'un révolutionnaire. Et c'est un morceau qui raconte qui parle de la mort de mon père et de ce que j'ai ressenti au moment de son assassinat. Voilà, le regard d'un enfant sur cet événement.
Ok.
Super morceau.
Ali Messili, en France, après son exil.
Oui. Alors très vite, donc comme je disais, il essaie de réorganiser un peu l'opposition. Puis ensuite, il reprend des études, enfin il fait des études de droit alors qu'il est âgé de 29 ans. Donc ça, là, on est en 69. Il fait des études de droit et de sciences politiques à Aix-en-Provence. C'est là-bas qu'il rencontrera ma mère, d'ailleurs. Ensuite, très vite, il s'installe à Paris, en 73, où il ouvre son cabinet d'avocat. Et il devient rapidement l'avocat, disons, de tous les déracinés, de tous les exilés, d'où qu'ils viennent. Et également, en parallèle, il fait aussi beaucoup de social, puisqu'il ouvre une maison à Belleville qui s'appelait la Maison Bleue, et qui vient en aide aux immigrés sur le plan juridique, social, psychologique. Voilà, puis plus les années passent, plus il reprend sérieusement son activité d'opposant politique, et puis il agrège autour de lui l'opposition algérienne en France. Et là, on n'est plus, disons, il fait aussi beaucoup d'apparitions publiques, c'est un homme public, c'est un avocat français à Paris, donc on n'est plus dans la clandestinité quoi, des maquis en Kabylie. Donc le pouvoir commence vraiment à s'inquiéter, parce qu'il a toujours, comme tous les pouvoirs autoritaires, ils ont une peur bleue de l'opposition en exil. Quoi. Et ils font tout pour la surveiller.
Et il faut avoir en tête que son passage par les services de renseignement l'a amené à construire des réseaux, pas seulement en France. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des réseaux, il a des contacts un peu partout en Europe et évidemment en Afrique.
Ouais, il a des contacts un peu partout et il a gardé des contacts au sein des services aussi.
Et ce qu'il semble avoir eu aussi, c'est une espèce de génie des relations humaines. C'est-à-dire qu'il est effectivement...
C'est un rassembleur.
C'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui ne se crée pas d'ennemis inutilement. Et tout le monde semble avoir reconnu au moins ce talent-là, si j'en crois effectivement le portrait qu'en dresse le bouquin d'Aït Ahmed. Et du coup, effectivement, c'est quelqu'un qui va prendre une place. Mais alors, moi, ce qui m'a aussi fasciné dans cette deuxième partie de cet engagement, c'est l'espèce de bilan qu'il semble tirer quand même de son activité purement clandestine, si tu veux, sur l'Algérie. Alors, je sais pas si tu peux en dire un peu plus là-dessus. On sent que, en tout cas, c'est comme ça que Aït Ahmed en parle, qu'il a une espèce de perplexité par rapport aux formes d'engagement partisanes ou militaires telles qu'elles ont pu se mettre en place au moment de la guerre d'indépendance. Et qu'il cherche une autre forme d'organisation politique ou une autre forme d'activisme politique, justement se méfiant de l'activisme clandestin, militaire, tel qu'il a pu le connaître dans la clandestinité. Donc il cherche à créer des réseaux, des groupes informels, à pas avoir d'organisation statutaire ou hiérarchisée, voilà. etc. Ce qui est aussi très singulier pour quelqu'un qui a été formé dès sa vingtaine dans des services.
Il a été formé, il a vu justement les dangers de...
Et mais c'est suffisamment rare pour être souligné, ça. Quelqu'un qui effectivement est capable, avec cette formation-là, qui mesure aussi l'efficacité de l'organisation clandestine, militaire, hiérarchisée qu'il a connue, parce qu'il sait très bien que ça marche, c'est quelles sont les ressources, y compris en termes d'impact de ça, et qui en même temps veut rester efficace tout en se méfiant systématiquement de la bascule qui menace ces organisations-là dans un système de contrôle policier gens, etc.
Bah, on peut résumer ça quand même par le fait que c'est un grand démocrate, quoi, qui respecte les opinions divergentes, qui respecte y compris ses ennemis, qui parle avec tout le monde et qui est un grand rassembleur.
Un démocrate qui n'a pas été brisé par l'appareil de la sécurité militaire auquel il a participé en tant qu'agent simple, puis double. Ouais. Et je trouve ça assez remarquable, effectivement. C'est assez rare, c'est assez fascinant, je trouve. Et donc en France, effectivement, c'est comme ça, d'une certaine manière, voilà, il y a une espèce de travail de fédérer des gens, des réseaux.
C'est ça qui fera le plus peur, je pense, au pouvoir algérien dès cette période, au cours des années, fin des années 70, où il commence vraiment à être très actif. Et également, à la fin des années 70, il commence à être très actif sur le plan de la revendication identitaire berbère. Également, alors là je ne sais pas si on peut
en dire
un mot, mais disons l'Algérie indépendante avait, les politiques qui avaient été menées avaient purement et simplement nié la langue berbère et avaient mené une politique d'arabisation sauvage. Lui, il crée par exemple une coopérative qui s'appelait Tiwizi, qui éditait des livres sur cette question. Il soutient des artistes, des chanteurs, il finance des disques, il soutient des groupes d'étudiants, notamment le groupe étudiant berbère de Vincennes. Et puisque c'est une question qui commence à se poser très sérieusement en Kabylie à cette période-là, il organise des séminaires de formation politique en France, où il fait venir énormément de jeunes de Kabylie qui militent sur cette question. Et il va opérer une jonction entre cette question identitaire, légitime, et la démocratie, les droits de l'homme. Et ça va aboutir à un avant-projet de plateforme en 79. Et surtout, c'est pas un hasard si tous ces cadres qu'il a formés politiquement dans ces séminaires vont se retrouver à l'avant-garde, effectivement, des événements du printemps berbère.
Donc, 1980.
Printemps berbère de 1980, qui est un soulèvement pacifique de la Kabylie à la suite de l'interdiction d'une conférence du grand écrivain Mouloud Mamri.
Et donc, effectivement, on a quelqu'un qui part, effectivement, dans une guerre d'indépendance anticoloniale, qui part de la clandestinité des services de renseignement durs, et dont la trajectoire va l'amener à défendre, au nom d'une vision un peu universaliste, on peut dire, des droits de l'homme, des revendications culturelles berbères, mais toujours avec en face cette espèce... Enfin, c'est pas qu'il réduit évidemment son engagement à ça, hein, évidemment son problème c'est l'état policier algérien. Mais on a effectivement tout l'ensemble du spectre sur lequel il a pu décliner ses engagements et déployer son énergie avec visiblement une efficacité assez incroyable, quoi. Donc là, effectivement, on est en 80 là-dessus. C'est pas quelqu'un en même temps, c'est pas une machine non plus politique. C'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a des moments effectivement aussi pas de découragement, parce que ça, il semble que c'est pas tellement trait de caractère qui lui était propre, mais effectivement des moments où de doute, de perplexité, et voilà, qu'on comprendrait à moins. Ça c'est et on arrive effectivement, on se rapproche de la date de son assassinat. D'abord il y a le rapprochement
Justement ce qu'on disait tout à l'heure sur ses qualités de sur le fait qu'il parvient à réconcilier, à rapprocher différentes tendances, et bien il va réussir une gageure à cette période, puisqu'il réussit à réconcilier, à renouer le dialogue entre Ben Bella et Aït Ahmed. Et ça va aboutir aux accords de Londres du 19 décembre 85.
Alors Ben Bella, qui est donc arrivé au pouvoir en 63 avec Boumediene comme caution politique, en fait au moment du coup d'état de Boumediene, et qui est viré par Boumediene
et qui est mis en prison pendant 15 ans, puisqu'il arrive là, il sort de prison quand il arrive en 1980 en France, il sort de prison, il reconstitue son parti, et Ali Messili est la cheville ouvrière, disons, de cette
Du rapprochement entre Ben Bella et puis le FFS de
Aït Ahmed. Qui n'ont pas du tout les mêmes lignes politiques ni idéologiques, mais qui, disons, c'est un front commun d'opposition contre le pouvoir algérien. Ils invitent également tous les autres mouvements à les rejoindre. Donc là, je pense que ça a fait quand même très peur au pouvoir algérien.
On a une opposition qui est du coup effectivement pour le coup crédible d'un point de vue international et aussi d'un point de vue local, enfin sur l'échelle algérienne, puisque Ben Bella est un ancien président, Aït Ahmed, tu l'as dit, est un des fondateurs historiques du FLN. Donc effectivement on a une légitimité du point de vue de la révolution et de l'indépendance, mais une légitimité dans l'opposition. Donc ça effectivement ça c'est pas rassurant pour un état policier, ça. C'est sûr.
Donc puis après ça. Il va encore faire parler de lui. En 86, il va réussir, par exemple, à...
Tu redis les accords de Londres, c'est...
C'est 19 décembre 85.
85, d'accord.
Ouais. Voilà. Mmh. Ensuite, il va réussir, par exemple, à empêcher l'expulsion de 13 opposants du mouvement de Ben Bella. Et donc ça, encore
expulsion
une fois... Expulsion de France, ouais. Ensuite, il va lancer le journal Libre Algérie aussi, très important. En 86, qui est un journal qui donne la parole à tous les opposants, qui n'est pas fermé. Lui, dans chaque numéro de Libre Algérie, il se livre à des éditos où il se livre à une critique acerbe, quoi, du pouvoir. Il dénonce, par exemple, les frasques de la femme du président Chadli, qui aurait mis la main sur de juteux contrats, qui aurait refusé de payer une taxe à l'aéroport. Enfin, il titille le pouvoir. Puis également, il aurait appris dans ces années-là que les partis politiques français avaient été financés en grande partie par l'Algérie. Ce qui n'est pas étonnant. Déjà, on sait que la campagne du PS de 81 avait été largement financée par le pouvoir algérien. Le Canard, on avait parlé plusieurs fois. Le journal de Ben Bella aussi, qui s'appelait El Badil, en avait parlé. Et c'était pas des rétrocommissions, c'était des versements directs de l'ambassade d'Algérie aux partis politiques français qui étaient complètement arrosés à gauche comme à droite.
Ça, on va peut-être en parler après, pour terminer sur l'émission, sur effectivement ce que cette affaire, est-ce que l'assassinat de ton père et la manière dont il est étouffé, on va dire, révèle effectivement des rapports entre la France et l'Algérie. Mais effectivement, on est sur des trucs assez saisissants. Donc
là, on est en 4. Oui, donc là, on approche de l'assassinat. Ensuite, il y a une dernière intervention sur FR3 en mars.
Sur YouTube, je crois.
26 mars.
Peut-être encore visionnable.
87, où carrément il traite le pouvoir algérien de pouvoir, enfin, d'état terroriste avec son peuple. En rentrant, il dira à sa famille qu'il est allé trop loin. Ça fait, il reçoit des lettres de menaces, des appels anonymes.
Il en a toujours reçu. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant aussi, c'est qu'effectivement, il est à Paris, il est avocat, il a une notoriété publique, etc. Mais en tant qu'ancien homme des services et en tant qu'opposant avec ce pédigré-là, il a des menaces, voilà, quasi permanente et régulière. Car menace, appels, pression, proposition, tentative de retournement, etc. Ouais, etc. Ouais. Enfin, toutes les techniques policières habituelles. Ouais. Et là, effectivement,
qu'il est allé trop loin. Et effectivement, voilà, il avait aussi un appel sur son répondeur qui lui disait « tu passeras pas le mois de mars ». Et donc finalement, c'est le 7 avril 87 qu'il est assassiné dans le hall de son immeuble.
Ouais,
en haut du boulevard Saint-Michel.
Boulevard Saint-Michel. Alors, là, on passe sur l'aspect policier français de l'affaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? Est-ce qu'on va. l'auteur de l'assassinat, en fait, il est assez rapidement identifié?
Oui, déjà, ce qui se passe, c'est quelques heures à peine après l'assassinat. Charles Pasqua prend son téléphone.
Ouais, on est en 87.
Appelle l'ambassadeur d'Algérie en France pour lui dire « Ne vous inquiétez pas, l'Algérie n'a rien à voir avec cette affaire. » Donc, une manière de dire « Vous êtes couverts. » Ensuite, très vite, au mois de mai, la police reçoit un renseignement confidentiel qui identifie un certain Abdelmalek Amelou comme étant l'assassin présumé. C'est en juin.
Donc on est sur un malfrat,
un petit truand
de la région parisienne. Ouais.
En juin, il est arrêté, ce Amelou. Il est placé en garde à vue. Et on trouve sur lui un ordre de mission de la sécurité militaire, signé d'un certain capitaine Hassani. Et là-dessus, alors qu'il est en garde à vue, donc que la police
travaille,
a fait son travail, quoi. Et bien là-dessus, le ministre délégué à la sécurité de l'époque, Robert Pendreau, prend ce qu'on appelle un arrêté d'expulsion et expulse l'assassin présumé vers l'Algérie en urgence absolue, au motif qu'il aurait commis des petits larcins qui représenteraient tout d'un coup un danger qu'il faudrait l'expulser au plus vite. Donc à partir de là...
Plus d'enquête.
Voilà, à partir de là, la justice a été complètement freinée, quoi, entravée. Ouais. Mm-hmm.
Donc plus d'enquête, donc pas de jugement, donc pas de déballage, pas de mise en cause du pouvoir algérien, et pas de mise en cause non plus, évidemment, des rapports possibles entre ce pouvoir algérien et puis la classe politique française et l'État français.
Et pas un mot des hommes politiques. D'ailleurs, à l'enterrement de Messiline, il n'y avait aucun homme politique, à part Alain Krivine, je crois. Sinon, il n'y avait aucun homme politique, aucun mot, rien. Mmh. Et...
couverture de presse quand même, ça c'est aussi quelque chose qui m'a frappé parce que il y a plusieurs pages dans Libération qui met effectivement l'affaire en une quand même. Bon, on sait tous que Libération a bien changé, mais de fait il y a un retentissement.
La journaliste José Garçon qui connaissait très bien l'Algérie, on avait énormément parlé.
Mais par contre, effectivement, silence radio du point de vue de la classe politique, comme tu dis.
C'est un peu ce qui différencie, d'ailleurs, parce qu'on compare souvent l'affaire Messiline avec l'affaire Ben Barka. De Gaulle avait montré du doigt directement le Maroc et avait sommé quand même Hassan II de se dédouaner du ministre de l'Intérieur qui était Oufkir. Et il avait clairement mis en accusation l'État marocain, alors qu'avec Messiline, ça n'a rien à voir, c'est l'omerta totale.
Oui, on a quelque chose. Et là, on a quelque chose qui est effectivement assez. Et c'est l'omerta totale, et c'est pratiquement le cas depuis. Mmh. C'est-à-dire que tu peux peut-être nous donner les derniers développements, effectivement, de l'enquête de l'affaire. Ou est-ce que. Parce que du coup, évidemment, vous, famille et proches, vous n'avez pas lâché.
En fait, nous, on a appris ça après l'assassinat. Il a fallu attendre 6 mois pour qu'on sache ce qui s'était passé, c'est-à-dire que l'assassin présumé avait été expulsé vers l'Algérie. On l'a appris ça par le magazine Le Point, qui a révélé ce qui s'était produit. Donc immédiatement, avec nos avocats, on a demandé au juge d'instruction de délivrer une commission rogatoire internationale pour auditionner l'assassin présumé en Algérie. Le juge l'a délivré, et là, il a fallu attendre, je crois... 33 mois de silence pour que l'Algérie daigne répondre à cette commission rogatoire et dise que les recherches sont demeurées vaines et infructueuses.
Sachant que les recherches, en l'occurrence, le type... La première partie du livre d'Aït Ahmed, là, sur l'affaire Messiline, c'est son titre. Hein, toute la première partie du bouquin est consacrée à ça, en fait. Hein, tout cas, à ce travail d'enquête et plutôt d'entrave à l'enquête et à l'exercice de la justice. Donc, c'est assez troublant. On est quasiment dans une espèce de polar. Bon, là, il se trouve qu'il y a un mort réel, ou combien, mais que y a des trucs assez invraisemblables. C'est-à-dire que le type, effectivement, il circule librement, il change de bagnole, il se fait livrer des trucs de France. Enfin, il est identifié sur le territoire algérien. On sait où il habite.
Il sait qu'il est couvert, il sait qu'il risque rien.
Voilà. Et de fait, effectivement, commission rogatoire ou pas, procédure en cours ou pas, atteinte à la souveraineté française, quand même, au passage, avec un assassinat sur son sol ou pas, ça passe. Ça passe, et ça passe depuis, on est maintenant en 2016, ça va faire 19 ans.
Plus de 29.
Oui, 29 ans, oui.
Ça va faire 29 ans, oui.
Et donc, aux dernières nouvelles, sur les aspects juridiques, tu disais sur le...
On peut continuer un peu la chronologie pour mieux comprendre. Il y a eu ensuite... en 92, en fait, selon le juge d'instruction, ça peut varier. Il y a des juges d'instruction qui vont se soumettre complètement à la raison d'État et d'autres qui vont essayer quand même de chercher la vérité. En 92, par exemple, on a eu Gilles Rivière qui immédiatement a prononcé un non-lieu. Donc nous, on a fait appel. Là, je ne sais pas par quel miracle, le parquet général s'est prononcé pour la poursuite de l'enquête. En 98, il y a eu une nouvelle commission rogatoire internationale qui a été délivrée, qui est restée sans réponse. Et ensuite, ce qui va briser un peu ce silence, c'est 2001, parce que là, il va y avoir quand même des anciens membres de la sécurité militaire algérienne qui vont commencer à parler. Donc, c'est un peu comme la mafia, hein. La vérité, ça, elle vient de l'intérieur, souvent. Donc, le premier, dans une interview du Nouvel Obs, va affirmer qu'il connaît Rachid Hassani, donc ça c'est le nom qui figurait sur l'ordre de mission de la sécurité militaire qui avait été trouvé sur l'assassin présumé. Et donc il va dire qu'il le connaît et qu'il va prétendre que celui-ci lui a dit qu'il était l'organisateur de l'assassinat. Le deuxième, Mohamed Samraoui, va déclarer carrément qu'il connaît un certain Mohamed Ziane Hassani se présentant comme Rachid, qu'il le connaît, qu'il l'a vu remettre une importante somme d'argent à Amelou, l'assassin présumé. Donc à partir de ces éléments quand même très importants.
Et puis qui émanent effectivement de l'intérieur. De l'intérieur, quoi, des services algériens eux-mêmes. Quoi.
Voilà. Et bien la justice, bon an, mal an, va se remettre en marche. Et en 2007, il y a deux mandats d'arrêt internationaux qui vont être délivrés. Le premier contre donc Mohamed Ziane Hassani, le commanditaire,
supposé commanditaire
présumé.
Ouais.
Et le deuxième contre Amelou, Abdelmalek Amelou, l'assassin présumé. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 2008, un certain Mohamed Ziane Hassani va... il est à l'aéroport de Marignane, je crois qu'il refuse de faire la queue comme tout le monde, etc.
Bref, un diplomate.
Diplomate algérien. Ouais. Et bref, on vérifie son identité et on se rend compte qu'il est soumis à un mandat d'arrêt international. Donc, il est mis en examen pour complicité d'assassinat. Lui, il se dit tout de suite victime d'une homonymie, parce qu'effectivement, sur son passeport, il y a écrit Hassani, alors que sur l'ordre de mission, il y a écrit Hassani. Ensuite, les tests graphologiques qu'on va faire sur lui vont pas se révéler probants, même si bon, les tests graphologiques c'est pas ce qu'il y a de plus probant, surtout que sur l'ordre de mission de la sécurité militaire, il y a très très peu d'écriture. Mais ensuite, on va le confronter à Samraoui, qui était un des anciens des services qui avait déclaré l'avoir vu remettre l'argent à l'assassin présumé. Et lorsqu'on le confronte, ce Samraoui, ce témoin, donc, va dire qu'il n'est plus sûr, qu'au départ il était sûr à 99%, et maintenant il n'est plus sûr qu'à 50%. Donc, on saura par la suite qu'il a subi des pressions téléphoniques. Et
il ose y croire.
Et il confirmera. Donc, c'est pour ça que, en fait, en 2010, il va y avoir un non-lieu pour ce diplomate. Hein, le non-lieu ne porte pas sur l'instruction qui reste encore ouverte,
sur l'inculpation,
mais sur l'inculpation de ce diplomate.
D'accord.
Et les derniers rebondissements, c'est en 2014 qu'il y a un nouveau juge d'instruction qui, lui, tout simplement, c'est une femme qui, elle, va décider de fermer le dossier, de prononcer un non-lieu au prétexte que l'Algérie ne répond pas aux commissions rogatoires internationales, donc qu'on doit fermer le dossier. Donc, elle se soumet totalement à un État étranger. Et aux intérêts.
Et c'est ce qui pose effectivement, ce qui est question quand même depuis le départ, quoi, sur la manière dont l'assassinat a été tout fait. C'est-à-dire que tu fais le parallèle avec Ben Barka tout à l'heure. À l'époque, De Gaulle, qu'on soit gaulliste, anti-gaulliste ou pro-gaulliste ou paragaulliste, il y a un truc qui est sûr, c'est que quelqu'un est assassiné sur le territoire français, c'est une atteinte à la souveraineté française. Et qu'il tape du poing sur la table et qu'il y aura de question d'étouffer l'affaire pour quelque raison diplomatique que ce soit. Là, dans ce cas-là, tu as effectivement parlé de raison d'État à plusieurs reprises, et puis tu as l'intervention de Pasqua, l'intervention de Pandro. Alors là, on est plutôt sur du RPR dur, et puis on est aussi sur les fondateurs et cofondateurs du SAC, du Service d'Action Civique, monté justement à l'occasion de l'indépendance algérienne pour lutter contre l'OAS à l'époque, contre les partisans de l'Algérie française. Tu mentionnais tout à l'heure les versements qui avaient été déjà épinglés par le canard au Parti Socialiste pendant la campagne de 80, donc c'est là où on voit que c'est difficile à mesurer effectivement quand on se penche pas un peu de manière précise là-dessus, mais les trois tests des relations qui existent finalement entre l'appareil, l'État et la classe politique française, je dirais, ou en tout cas les appareils plutôt, on est plutôt sur quelque chose de ça, et puis l'État algérien depuis l'indépendance, c'est-à-dire qu'effectivement on est en indépendance, et on a un rapport qui est complètement assez duplice, puisqu'il y a à la fois, on joue aussi bien sur le registre de la culpabilité de l'ancien colon, c'est ce qu'explique aussi Etarmed dans le bouquin, c'est-à-dire que l'État algérien met en avant évidemment la lutte, la glorieuse lutte anticoloniale, a raison, évidemment, en partie. Et en même temps, donc on joue effectivement sur la culpabilité de la France, Et en même temps, on fait du bis depuis toujours, et puis surtout, et on s'assure les bonnes grâces, voilà, pas forcément de gaieté de cœur toujours, mais en tout cas, il y a des relations extrêmement, extrêmement étroites, ouais, quoi, oui. Que ce soit à gauche ou à droite.
Et puis surtout, il y a une collusion entre les services, quoi, c'est quasiment de la fusion, quoi. Dans les années 80, la sécurité militaire et la DST. C'est pareil. Hein.
Cet héritage, effectivement, que l'on ne pense pas tout de suite, mais c'est cet héritage du SAC, là, effectivement. Mais ça va au-delà, comme tu dis, parce qu'effectivement, tu as une vraie coopération d'État, et en particulier une coopération clandestine, quoi, quasiment pour rien. Enfin, en tout cas, non publique, quoi, ça c'est clair. C'est qu'officiellement, on a vraiment un discours, on a pratiquement un État, voilà, on a l'ancien colonisé qui s'est glorieusement levé contre son oppresseur, ce qui est pas faux. Mais ça, c'est le discours public, et en même temps, effectivement, le discours off, c'est qu'on coopère sur tous les sales coups, de barbouze à barbouze, quoi.
Ouais, que ce soit des intérêts économiques ou géostratégiques. Par exemple, dans les années 80, la sécurité militaire algérienne a fait beaucoup pour libérer les otages français au Liban, par exemple. Donc,
on met en avant ce rôle d'intermédiaire là pour régler les problèmes, effectivement, de la France.
Voilà, c'est ça.
Au service, tout à fait. Ouais. Et on a effectivement, et on n'est pas sorti de ça, quoi.
Ah non, on n'est pas sorti, certainement pas. Ouais. Non, la preuve.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est
d'ailleurs, tant qu'on n'en sort pas, je pense qu'il n'y aura pas de, il n'y aura pas de vérité ni de justice pour l'affaire Messili. Ça prouve, en fait, qu'on est encore là-dedans.
Et t'as vraiment ça c'est aussi, aussi frappant, quoi. Cette espèce de collusion off, quoi. Voilà. Voilà. Il y a la diplomatie publique, et puis la manière dont ça. Bon, et c'est quelque chose qui est assez propre aux relations franco-algériennes, quand même, si j'ai bien compris. Enfin, il y a des intérêts économiques colossaux. Il y a évidemment une histoire, extrêmement, extrêmement aussi étroite, quoi, entre les deux pays, entre les deux États, quoi. On est vraiment
dès l'indépendance, dès les accords d'Évian, même. Hein, où il y a eu ce qu'on appelle les clauses secrètes des accords d'Évian, où la France a tout fait pour, même si les pieds noirs sont partis, disons, l'État français a tout fait pour rester en Algérie, que ce soit au niveau du pétrole, des armes chimiques.
Ouais. Et l'État algérien a pas tout fait pour l'en virer.
À collaborer.
Voilà. Ouais. Bon, écoute, on va s'arrêter là pour ce soir, donc sur émission spéciale autour de l'affaire Messili, donc de l'assassinat de ton père Yalane. Grand merci pour pour avoir accepté cette invitation. Et puis donc on tenait à faire cette émission pour ce jour de fête nationale.
Sur une note un peu plus joyeuse, tu peux parler aussi de ta musique, où est-ce qu'on peut la trouver? Parce qu'il y a des auditeurs qu'on apprécie, j'imagine, et on va passer encore un mot pour toi. Donc c'est Y.
Oui, donc mon nom d'artiste c'est Y, I-G-R-E-K, et on peut trouver tous mes morceaux sur Bandcamp, y.bandcamp.com.
Qui seront donc en ligne,
deux albums,
ouais. Remarquables tous les deux. Le site sera en ligne sur le site de notre émission, évidemment, Jeudi Noir, Gurdulu. Donc on vous invite à aller chercher le lien. Merci encore à toi, et puis Jeudi Noir prend quelques semaines de repos, et on se retrouve à la rentrée.
Françaises, Français,
mes chers compatriotes,
une nation comme la France,
c'est une nation engagée.
Engagée dans le monde.
Pour la justice.
L'honneur.
La liberté.
Le respect des lois.
De la sagesse.
Cette volonté française de faire l'histoire.
Pour la paix.
Mesdames et messieurs,
mes compatriotes,
vive la République.
Vive la République.
Vive la République.
Vive la France.
Vive la France.
Et vive la France.
Et vive la France.
Des hommes de l'ombre et des cadavres encombrants, dans des placards pleins à craquer, les dossiers les plus accablants mis de côté par le parquet, les suspects qui s'envolent, les preuves et les indices aussi, tractation au lieu, Dieu sait ce qui se négocie. République 5e, connue pour ses pratiques malsaines, Gégène sur les fellouses et noyade au fond de la Seine, les indépendances de façade, le mépris des droits de l'homme pour le pétrole, le gaz ou l'uranium, des guerres civiles attisées pour vendre des tonnes d'armes aux rebelles, loin des salons de l'Elysée. Bienvenue dans ces poubelles, une partie des
l'échec, on se distribue les gros chèques. T'es pas au courant sans deck, demande aux anciens du steak. Comment commanditer un meurtre et le maquiller en suicide? Ou encore mieux, fermer les yeux sur un génocide inondé. Un pays de faux billets et d'évaluer sa monnaie pour faire chuter ses coutourés en Guinée. S'entourer de tyrans avec lesquels on est complaisant, les services qu'on se rend valent bien la peau d'un opposant. La démocratie s'arrête où commence l'intérêt de l'État. De l'État, c'est pas de moi, c'est de Pasqua. Fais comme les rats, mais ton est dans les poubelles. Et tu me diras si la République est si belle. Je connais les dessous, je connais les dossiers. Du sang, des gros sous et des affaires étouffées. Fais comme les rats, mais ton est dans les poubelles. Et tu me diras si la République est si belle. Je connais les dessous, je connais les dossiers. Du sang, des gros sous et des affaires étouffées. Frégates de Taïwan, nos sous-marins de Karachi, de faramine bakchiche partagée entre apparatchiks. Rétro-commission dans la poche quand on n'a pas la gagne. Faut ce qu'il faut pour financer sa campagne. En cas de pépin, une pression et les témoins se rétractent. Certains ont le bras long même quand on les prend la main dans le sac. Au-dessus des lois comme focards, entre les principes républicains et la réalité, trop d'écart. Raison d'état dans tous les cas, sans égard pour les orphelins. Où est le corps de Ben Barka? Comment est mort Robert Boulin? Le juge Borrell retrouvé brûlé à Djibouti. Ali Messili exécuté en plein Paris. Parfois complice et acteur, parfois spectateur passif. Nos services agissent sur le droit comme un corrosif. Tout est si flou, tellement de détails que l'on ignore. La vérité reste enfouie comme l'épave du Rainbow Warrior. Tout ça me hante et me déçoit. La justice n'est pas aussi transparente que les diamants de Bokassa. La démocratie s'arrête où commence l'intérêt de l'État. De l'État, c'est pas de moi, c'est de Pasqua. Fais comme les rats, mets ton nez dans les poubelles. Et tu me diras si la République est si belle. Je connais les dessous, je connais les dossiers. Du sang, des gros sous et des affaires étouffées. Fais comme les rats, mets ton nez dans les poubelles. Et tu me diras si la République est si belle. Je connais les dessous, je connais les dossiers. Du sang, des gros sous et des affaires étouffées.
Qu'a-t-on fait de son cadavre?
L'affaire Boulin. L'ancien ministre ne s'est peut-être pas suicidé.
L'affaire Greenpeace qui remonte à la surface.
Changement de cap dans l'enquête sur l'attentat de Karachi.
Toujours plus inventif pour nous anéantir sans pitié. Une bande de nantis assujettis des pays entiers. La vérité fait s'arrouter, tout va se décanter. Dieu seul fera les comptes, choisis bien dans quel camp t'es. À quoi nos libertés se limitent? Allez voter, acheter une télé, un grand canapé pour s'y vautrer. Mater les débats futiles, quotidien, les plateaux pleins d'idiots utiles et de savants qui servent à rien. C'est pas la fin de la partie, poteau, ne sois pas triste. Sors de l'apathie, relève la tête comme les apatistes. Recharge les batteries, recharge les accus, l'histoire écrite par les vainqueurs, corrigée par les vaincus. Fais pas ton planqué, il s'attaque à nos acquis. Il nous manque un Gracchus, Babeuf ou un Blanqui. Nos vies, tu parles d'un sacré gâchis. Depuis qu'on sait marcher, on soumet sans broncher à la hiérarchie. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France.
S'accaparer de nouveaux marchés, créer de nouveaux besoins, fomenter de nouvelles guerres, en prétendant faire le bien. La propagande fait rage et nos petits cerveaux épongent tous leurs messages bâtis sur le mensonge. La télé ronge nos méninges, tous amnésiques comme Jason Bourne. Si l'être humain descend du singe, il y retourne. Pulsion négative, valeur à l'envers, névrose collective, HP à ciel ouvert. Je me sentais bien intégré, j'en ai des regrets. S'adapter à cette société malade, c'est être cinglé. Qu'est-ce qu'une démocratie sans peuple et sans citoyen? À part une dictature qui n'a pas besoin d'user du gourdin. Corps social engourdi, mais sûrement pas accourdi. Mais pour briser le nœud gordien de la fatalité. Voter est accessoire, je crois pas en qui que ce soit. J'ai préféré prendre la parole que donner ma voix.
Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire
délire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France. Ils ont la main mise, j'ai la main soumise. Que l'empire de la marchandise agonise. Que tout s'effondre dans l'indifférence. On va refaire le monde et on va commencer par la France.
Où sont passés les révolutionnaires
d'antan? Regarde les morts.
Où sont passés les révolutionnaires
d'antan? Regarde les morts, ils sont dans quel camp? Quel camp?
Où sont passés les révolutionnaires
d'antan? Regarde les morts. Regarde les morts, ils sont dans quel camp? Quel camp?
On ira jusqu'au bout. On baissera bas les bras, tente le tout pour le tout comme Ali la pointe dans la casse-bas. Toujours debout, même bombardé par vos soldats, comme Allende dans le palais d'Amoneta. Réfléchis pas, quand les ennemis s'alignent, comme les militants du boom pris entre Franco et Staline. J'ai des idéaux qui passent avant moi, je me fous d'avoir ma part du gâteau, je veux casser le plat. On ira jusqu'au bout, on baissera pas les bras, on tente le tout pour le tout comme Ali la pointe dans la casse-bas. Toujours debout, même bombardé par vos soldats, comme Allende dans le palais d'Amoneta. Réfléchis pas, tire. Quand les ennemis s'alignent, comme les militants du boom pris entre Franco et Staline. J'ai des idéaux qui passent avant moi, je me fous d'avoir ma part du gâteau, je veux casser le plat.